Nous étions posés une question tout à fait existentielle. To be or not to be, être ou ne pas être un disciple. Ben oui, est-ce qu'il faut vraiment être un disciple? Bon, je suis chrétien ou, comme on dit souvent dans notre société post-chrétienne, je suis pratiquant, adhérent, j'adhère. En plus de ça, il faudrait être disciple. Eh bien oui, Jésus nous appelle, comme il a appelé des gens à l'époque, Matthieu, Jean, Jacques, Nathanaël, André, Thaddée, etc., à être ses disciples, et pas que d'ailleurs, il y en avait d'autres au-delà des 12. Et nous avions vu aussi, il y a 15 jours ou 14, qu'il y avait une particularité pour les disciples de Jésus, c'était de, non pas de qu'ils choisissent leur maître, alors que c'était le cas à l'époque, les disciples choisissaient celui qu'ils voulaient suivre, le maître de philosophie, le maître de littérature. Mais là, pour le disciple de Jésus, et ça c'est extraordinaire, et Jésus le dira lui-même dans l'évangile de Jean, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Extraordinaire. Non pas pour se vanter, vous savez, moi j'ai été choisi, mais pour donner toute une confiance. Waouh ! Une louange, une reconnaissance. Waouh ! C'est Jésus qui m'a choisi pour être son disciple. Avec cette particularité que malgré ce choix d'amour, comme il l'a fait pour Nathanaël, je te voyais, je t'ai vu, dit Jésus, alors que tu étais encore sur le figuier. Une sorte de préscience de Jésus et une préscience de Dieu ou une élection de Dieu ou un choix préalable de Dieu. Malgré cela, il y a toute une responsabilité du disciple à le suivre parce que Jésus dit « Toi, viens et suis-moi ». Et donc, à un moment, il faut le suivre. Choix préalable, responsabilité de le suivre. Et c'est une des marques du disciple de Jésus-Christ, c'est suivre Jésus. Suivre. Qui a donné le mot « acolyte » en français. Être son acolyte, être partout où il va, suivre ses traces. J'ai décidé de suivre Jésus. Avec ce verset aussi extraordinaire, juste après l'épisode de la femme de mauvaise vie ou qui avait une vie mauvaise, à qui il dit, vous savez, il écrit dans le sable et puis personne ne te condamne, ceux qui étaient prêts à la lapider lâchent leurs pierres et s'en vont. Et il dit à la femme en la relevant, va et ne pêche plus. Après, juste après, il va parler et il va dire, moi je suis la lumière du monde comme je l'ai été pour cette femme. Je suis la lumière de son monde. Celui qui me suit, celui qui est mon disciple, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Suivre Jésus, être dans la lumière. Et ce matin, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur ce passage que nous avons lu tout à l'heure, qu'Yvonne a lu tout à l'heure. Encore une histoire de disciples qui sont en train de suivre Jésus. Et il y a un problème qui se pose sur la route. Ils vont vers Jérusalem à la suite du rabbi Jésus. Et il y a comme un problème avec d'autres disciples, les disciples de Jean-Baptiste, qui sont encore là. Il y a une transition qui est en train de se faire, mais ils sont encore là. Et il pose une question bizarre à Jésus. Alors, Jean-Baptiste, qui était celui qui a préparé le chemin de Jésus pour Jésus, est mort. Nous savons dans quelles circonstances, avec la danse fameuse de Salomé, reprise par des péplums bien connus. Mais les disciples de Jean-Baptiste sont encore présents. Et au contraire de leur maître, Jean-Baptiste, ils ne sont pas très favorables à Jésus. Peut-être sent-il un peu de jalousie par rapport aux disciples de Jésus. Je parle des disciples de Jean-Baptiste, c'est un peu compliqué, mais donc ils ressentent une petite jalousie par rapport aux disciples de Jésus, ou tout simplement qu'ils ne sont pas très à l'aise dans la situation. Bref, ils s'adressent à Jésus en revendiquant leur statut de disciples de Jean-Baptiste, mais aussi en parlant au nom des pharisiens, et ils posent la question: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent? Alors il faut insister sur le jeûne pas. En voilà une question, quelle est bonne. On sent quand même qu'il ne s'agit pas juste d'une question informative, mais on sent poindre un reproche, une contestation même. Et dans l'évangile de Luc, l'évangile parallèle, c'est encore plus clair. Il est dit « Pourquoi on jeûne et prie régulièrement alors que tes disciples mangent et boivent ?» Pourquoi on fait carême et vous carnaval ? Pourquoi on jeûne et vous, vous déjeunez ? D'où le titre de la prédication ce matin, j'espère, ouais, c'est la bonne dia, « Quand le disciple déjeune ». Alors, déjeuner, c'est d'abord un repas. Et le repas, dans toutes les cultures, sauf peut-être dans la culture hollandaise, c'est un moment convivial, un moment important, le repas. Vous savez que les Hollandais, ils n'aiment pas trop manger. Enfin, donc mon père était Hollandais, enfin il a épousé une Française peut-être pour ça. Bon bref, mais bon, dans toutes les cultures, le repas c'est quelque chose de bon, c'est la communion. Et Jésus même nous invite dans ce texte magnifique d'Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Et on fera une étude biblique ensemble. Et je souperai avec lui. Le cénar, comme en italien, le cena, le repas du soir, le repas principal, pour avoir un moment de convivialité, de communion, de koinonia, ensemble. Le repas important. Et Jésus nous invite à prendre un repas avec lui, à rentrer dans son intimité, à nous rapprocher de lui, à mieux le connaître, à déjeuner en paix, comme chantait Patrick Echter il y a quelques dizaines d'années. Déjeuner en paix. Mais déjeuner dans la shalom de Dieu. La shalom, l'état de celui à qui il ne manque rien, c'est la définition de la shalom. Déjeuner en paix, il se passe des choses dont pendant le déjeuner, et Matthias nous en parlait quelque part en Pologne, à Wrocław, ce repas d'église là, avec la communauté allemande, il l'a raté, parce qu'il se passe des choses pendant les repas. Mais déjeuner, c'est aussi rompre le jeûne. C'est déjeuner. Quand on déjeune le matin, quand on prend son petit déjeuner, on arrête le jeûne de la nuit. À midi, on le rompt de plus belle avec le déjeuner. On déjeune. C'est la grande rupture du jeûne. Et dans ce sens-là aussi, il y a une invitation que Jésus nous lance à rompre le jeûne, ou à amener une certaine rupture dans notre manière de vivre et de voir les choses. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre ce déjeuner de Matthieu 9. Déjeuner dans le sens de rompre le jeûne. Alors Jésus, au début du passage, parle de jeûne, mais en fait ce n'est pas vraiment un enseignement sur le jeûne à proprement parler. D'ailleurs, à la fin du passage, il n'en est plus du tout question. Disons que le jeûne, c'est une tradition juive, bien en place, et c'est un peu l'élément déclencheur de cette parole, avec les deux petites paraboles légèrement énigmatiques qui suivent. Alors au sujet du jeûne, j'ai du mal à le dire, on sait que la loi de Moïse le prescrivait une fois par an, lors du Yom Kippour, en signe de repentance. Mais les Juifs, au cours des siècles, avaient pris l'habitude de jeûner volontairement, en cas de deuil, en signe de lamentation, après par exemple une catastrophe naturelle. On jeûne pour montrer sa tristesse, parfois son repentir. Et ainsi, le jeûne, à l'origine, comporte une dimension religieuse très forte, mais au moment de l'exil, au VIe siècle avant Jésus-Christ, la fameuse exil à Babylone, le jeûne aura tendance à devenir un rite méritoire. On mérite des choses, parce qu'on jeûne. Un peu, on dirait aujourd'hui, dans une certaine théologie, la mortification de la chair. La privation. Une œuvre, le jeûne, qui attire la récompense du ciel. Mais les prophètes de l'exil, comme Ésaïe et Zacharie, vont réagir contre cette pratique avec des textes dans Zacharie. Est-ce que c'est pour moi que vous avez jeûné ? C'est pas pour moi, c'est pour vous. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est pas le jeûne de la privation. Ésaïe dit, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est de partager ton pain avec l'autre. c'est de travailler à la justice. Et donc, il y a toute une remise en question du jeûne. Et puis Jésus, dans son sermon sur la montagne, dit « Quand tu jeûnes, parfume-toi. Prends pas cet air triste du gars qui a passé 7 jours de privation. Non, parfume-toi. » Donc, il y a une remise en question du jeûne. Et à l'époque, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens en avaient fait de ce jeûne une obligation morale, religieuse et même sociale, avec un lourd parfum méritoire. Ils préconisent de jeûner 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, de façon régulière, rigoureusement régulière, religieusement régulière. C'était le religieusement correct de l'époque. On parle du politiquement correct, et bien il y a aussi le religieusement correct. Et on sent derrière la question des disciples de Jean tout un système de pensée qui se base sur ce fameux religieusement correct. Un disciple de quelqu'un, ça doit être religieusement correct. Bien pensant, avec des normes à respecter, des limites à ne pas franchir, j'ai lu quelque part que le grand projet des pharisiens était littéralement, je cite, de mettre une clôture à la loi. Alors la loi, c'est déjà une clôture, mais il voulait mettre une clôture à la loi. Et ça donne le ton. J'ai toujours été impressionné par ces écriteaux aux États-Unis, devant des propriétés où il y avait marqué « No trespassing ». C'est ça, hein ? Et alors, on n'avait pas le droit de trépasser. Ou qui passe, trépasse. Moi, ça me faisait peur, ça. Qui dépasse la ligne, trépasse, et le jeûne, à l'époque, faisait partie de cela. Et sans rejeter d'une manière absolue le jeûne, Jésus saisit l'occasion de renvoyer les disciples de Jean et les pharisiens à la tristesse de leur assiette vide, à la tristesse de leur religieusement correct. Et il va dire « Pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux soient tristes ?» ou littéralement « mènent deuil » alors que l'époux est encore présent. Et Jésus répond avec cette autorité qu'on lui connaît. Et avec cette réponse, Jésus il donne 3 informations très très importantes. D'abord, il est l'époux, c'est-à-dire le Messie qui doit venir, loin de Dieu, celui qui a été loin de l'onction royale, de l'onction sacerdotale. Le grand prêtre, il est là, loin, et ça n'a l'air de rien, mais pour les pharisiens et les disciples de Jean, c'est une fameuse nouvelle. Jésus dit « Je suis l'époux, le Messie, loin ». Et ça fera d'ailleurs le point de discorde principal dans la vie de Jésus, l'identité de Jésus. Qui est-il vraiment ? Qui dites-vous que je suis ? Ensuite, dans sa réponse, il annonce sa mort prochaine. Il sera... Le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Et ce temps, c'est celui de la croix. Et le mot, le verbe enlever désigne une action violente et soudaine. Le temps terrible et unique de sa mort sur la croix. Et c'est la première fois que Jésus, dans l'évangile de Matthieu en tout cas, annonce qu'il est venu pour mourir. Et qu'il en est bien conscient. Et c'est ça qui est extraordinaire, enfin, oui, extraordinaire, terrible, c'est de savoir que Jésus, dans tout son ministère, sait qu'il est là pour donner sa vie, pour toi et pour moi. Il est le serviteur souffrant que le prophète Ésaïe a entrevu 6 siècles, 8 siècles avant Jésus. Et donc, c'est pas rien comme affirmation non plus. Il est l'époux, il va mourir de façon violente. Et puis, 3e affirmation, avec lui, on fait la fête. Et Jésus va leur dire à ses disciples, aux disciples de Jean-Baptiste et aux pharisiens qui n'étaient pas loin, mais aussi à ses propres disciples, avec moi, c'est la fête. On mange, on boit. On se réjouit avec lui. Il prend l'image des noces. Il est l'époux. Ses disciples sont les amis de l'époux. Et avec lui, on fait la noce avec lui. On a vu hier à la plage comment on appelle ça, enterrement de vie de jeune fille. Et elles étaient toutes en maillot de bain, et c'était 7-8 jeunes filles, avec juste la mariée qui avait son voile et en maillot de bain. C'était magnifique, et il y avait une bonne ambiance. C'était pas du tout, parfois, il y a des enterrements de vie de jeune fille, mais là, c'était vraiment très sympa. Bon, et avec l'épouse ou l'époux, on se réjouit, on fait la noce. Avec lui, il y a de l'ambiance, on n'est pas en résidence surveillée. On est à la fête, on s'attristera éventuellement plus tard, mais pour l'instant, quand Jésus est présent, c'est la joie qui prédomine, mince. Il y a un contraste évident entre le groupe de jeûneurs et celui des disciples de Jésus. Et une question, et si vous deviez passer un week-end avec l'un de ces groupes, avec lequel vous iriez? Les disciples de Jean-Baptiste qui jeûnent, ou les disciples de Jésus qui mangent et boivent et qui font la fête? Il n'y a pas photo. Et ils mangent. Le groupe, on va choisir le groupe de Jésus, bien entendu. Il y a comme un vent de liberté qui souffle. Une joie qui se dégage. Ils mangent, ils boivent, ils sont heureux. Non pas parce qu'ils mangent et boivent, mais parce qu'ils sont avec l'époux, évidemment. Et la pointe de la réponse de Jésus pourrait se dire « Avec moi, c'est la joie. Passez votre chemin, vous, les rabat-joie. » Et on pourrait faire une première application de ce passage pour nous aujourd'hui, nous qui sommes aussi ses disciples, ou qui essayons de l'être. Jésus s'adresse aussi à nous, à toi, et te dit « Et toi, disciple de 21e siècle ?» Pour toi aussi, quand tu es avec moi, c'est la fête. C'est la noce. Parce que Jésus est encore présent aujourd'hui. Quand Jésus parle de ce temps où il sera enlevé, c'est un temps limité dans le temps. Le temps de la crucifixion, de la séparation, un temps difficile, mais après vient le temps de la promesse. Voici Matthieu 28, à la fin du même évangile, Matthieu 28, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde par mon Esprit Saint. » Et donc avec moi, c'est toujours la fête. Avec lui, on peut faire la fête. Et je ne sais plus où j'en suis, mais ça va venir. Et on peut se demander parfois, si, en tant que chrétien proche de Jésus, disciple de Jésus, nous ne serions pas un petit peu tristounets, quand même. En tout cas, pas à la fête. Est-ce que l'Église de Jésus-Christ, dont Jésus est à la tête, présent, omniprésent, si cette Église ne manque pas un petit peu d'ambiance, de voir justement, ou d'avoir justement Jésus à sa tête? Alors, je veux jeter la pierre à personne, ni la première, ni la deuxième, mais simplement nous poser et me poser la question de la joie, de me demander si les disciples d'aujourd'hui, au lieu d'être dans l'ambiance festive et accueillante de Jésus, ne font pas plutôt figure de rabat-joie, qu'au lieu d'avoir bonne mine, ça vous dit quelque chose, bonne mine? C'est la femme d'Abrara Coursi. Au lieu d'avoir bonne mine, on ne fait pas plutôt grise mine. Alors qu'avec Jésus, on pourrait avoir bonne mine. Une mine, d'ailleurs, une grise mine qui ne ferait pas d'ailleurs beaucoup envie à ceux du dehors. Vous savez, j'aime bien ce texte de Colossiens 4. Agissez envers ceux du dehors, avec sagesse envers ceux du dehors, que j'appelle littéralement les outsiders, ceux du dehors qui nous entourent. Si on n'est pas un peu tristounet, justement, dans notre religieusement correct, dans nos obligations religieuses, dans nos disputes internes, dans notre repli identitaire, dans notre hypersensibilité, dans notre peur constante de mal faire, dans notre sens exacerbé du devoir, toutes ces choses qui grignotent comme un rongeur, toute la joie de la présence de Jésus dans notre vie. Et à tous ceux qui se demandent quelle mine ils ont, de quelle couleur est leur mine, Jésus dit, bah, écoute, viens, approche-toi de moi et viens déjeuner avec moi. Viens te débarrasser de toutes ces bonnes œuvres que tu as accrochées sur ta poitrine et qui finissent par peser. Enlève ton masque de celui qui fait bien, tout bien comme il faut, et mets-toi à l'aise. Et j'ai noté
C'est ce verset peut-être préféré de la Bible qui revient plusieurs fois dans le psaume, dans les psaumes, « Le Seigneur m'a mis au large », qui est traduit parfois « Le Seigneur m'a mis à l'aise ». Eh, le Seigneur t'a mis au large, à l'aise. Et il nous fait rentrer dans la joie de son accueil, la joie de son salut, la joie de son amour, la joie de sa grâce, la joie de sa liberté dans l'esprit. La joie de nous retrouver et de retrouver en lui un avenir fait d'espérance, la joie de la communauté de ses enfants adoptés. Dieu veut nous faire retrouver l'ambiance des noces, l'ambiance de la fête avec lui, bien sûr. Il y aura encore des deuils par rapport à des personnes qui sont parties trop tôt. Et on se souvient, il y a 5 ans, disparaissait Marc de Michely, qui était président du conseil, et ça nous a dévastés. Il y a encore des relations qui se brisent, elles aussi trop tôt. Il y a encore des injustices dans ce monde qui nous font pleurer, qui nous donnent des bleus à l'âme. Il y a des tristesses dans cette vie et dans la vie du disciple, des tristesses sur soi aussi, des tristesses sur ce qu'on a mal fait, qu'on n'a pas bien fait du tout. Il y a des lourdeurs de l'âme, il y a des pesanteurs, et comme dit l'Ecclésiaste, il y a aussi un temps pour se lamenter, un temps pour pleurer, un temps pour mener deuil. Et ce deuil, il faut le mener pleinement, au risque de voir un retour de manivelle si on ne le mène pas pleinement. Mais parce que Jésus est présent dans notre vie, le temps de la joie persiste. Il est, je vais employer un mot à la mode, résilient, ce temps de la joie, persistant, résistant. Et ce temps de la joie, il imprime encore tous les autres temps de la vie. Parfois, il vient un petit peu à contre-temps, mais il rythme quand même la vie de celui qui reste proche de l'époux et qui reste proche du roi de la fête. Alors, évidemment, il ne s'agit pas d'exiger oui, il y a ce texte aussi dans Romains 12, de pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a un temps pour cela. Alors il ne s'agit pas non plus d'exiger la joie à tout prix. Il y a un croquis du recueil, vous savez, je ne sais pas si vous... Bon, il a aussi 40 ans, le pauvre, enfin le pauvre, le recueil. Crise de foi, où on voit l'image, on voit une voiture en face et un couple assis dans la voiture qui revient manifestement de l'église. Il y a même sur la plaque d'immatriculation le mot « pasteur ». Et l'homme qui est au volant porte un masque avec un grand sourire dessus et sa femme lui dit « Tu peux arrêter de sourire, on est à la maison. » Donc, voilà. Donc un peu le masque. C'est pas mal vu parce qu'il y aurait dans l'Église comme une exigence de joie qui nous obligerait à porter des masques et qui ferait une sorte de pression sur nous, une pression un peu normative, quoi. Il faut être joyeux, t'es chrétien, il faut être joyeux. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Et parce que nous avons l'habitude de tordre les choses, même les plus belles, même comme la joie, on peut faire de cette exigence de joie et de bonne humeur comme une pression pharisienne sur les autres. Le « pourquoi ne jeûne-t-il pas comme nous » deviendrait « pourquoi n'es-tu pas joyeux comme tu devrais l'être en tant que disciple ?» Et ce genre de pression sur notre capacité à nous réjouir vient enlever le peu de joie qui nous restait encore. Mais qu'on se le dise, le disciple ne doit pas être joyeux, mais il peut l'être. Il peut l'être pleinement. En matière de joie, il ne s'agit pas d'un devoir, mais d'une réelle possibilité. On peut être joyeux. Viens déjeuner avec Jésus. Après, il y a 2 petites paraboles, et je vais faire vite. La parabole, les 2 paraboles que Jésus a lues sur le vin nouveau, les outres vieilles, le vin qui explose, les morceaux de tissu qui se déchirent, Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui fait le point commun des deux paraboles, c'est l'ancien et le nouveau. Et la pointe de ces paraboles, qui viennent juste après cette histoire de jeunes, c'est le rapport entre le vieux et l'ancien et l'impossibilité d'une vie commune. Pas de raccommodage comme avec la vieille singère de ma mère, vous savez, ces machines à coudre. Pas de bricolage non plus à la MacGyver. Il faut à vin nouveau, outre neuf. Et il faut pouvoir accueillir le nouveau. Et il dit ça aux disciples de Jean-Baptiste qui sont encore formatés dans les anciennes normes. À vin nouveau, outre neuf. Et les prophètes le disent, et ça aussi dans Osée 10, un magnifique verset. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne. Défrichez-vous un champ nouveau. Enlevez les pierres. Et un autre verset dans la Bible qui nous en parle de cette nouveauté, d'accueillir la grâce de Dieu, son amour inconditionnel, son pardon qui nous relève et qui nous permet d'avancer, accueillir la liberté dans l'esprit et de l'esprit. Il faut que le disciple de Jésus reste dans le neuf, reste dans ce chemin nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, le nouveau est déjà là. Le nouveau avec Jésus est déjà là. Il est là et il doit le rester pour le disciple de Christ. Le nouveau de cette joie nouvelle. Alors on sait que la vie de disciple est aussi faite de combats et de renoncements. On en parlera peut-être plus tard, mais on en a déjà parlé lors de notre campagne cet hiver sur 40 jours sur la montagne avec Jésus, qui était autour du sermon sur la montagne, avec les difficultés. Suivre Jésus, c'est pas de tout repos. Si quelqu'un te demande ton manteau, donne-lui aussi ta chemise. Ah, ma chemise ? Ah, aussi ma chemise ? Non, oui, il y a des difficultés. Mais pour l'heure, ce passage, c'est une invitation de Jésus à la joie de faire partie d'une bande de disciples remplis d'espérance, une invitation à être des hommes et des femmes prêts à se défricher un champ nouveau pour accueillir tout à nouveau la nouveauté de Jésus dans sa vie. Bon, les amis, on va déjeuner ? Amen.